Et donc nous sommes sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une nouvelle émission de Sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la sécurité et son monde capitaliste autour d'un ouvrage collectif, Critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, qui paraît en septembre 2017 aux éditions Hétérotopia. Et pour discuter de cet ouvrage et de la critique de la sécurité qu'elle propose, nous sommes avec Memphis, marxiste et co-directeur de l'ouvrage. Bonjour Memphis.
Salut, merci pour l'invitation.
Il n'y a pas de quoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on t'a invité? C'est parce qu'on parle beaucoup de la critique des politiques sécuritaires depuis un certain nombre d'années dans les milieux anarchistes, marxistes, d'extrême-gauche en général. Il y a également une forte critique de l'état d'urgence qui s'est développée, dont on a déjà parlé dans une émission d'histoire critique de l'état d'urgence avec Marius Loris. On a également consacré des émissions de critique du maintien de l'ordre. Et là, on voulait peut-être prendre un peu de recul sur voilà, la critique des politiques sécuritaires et peut-être s'interroger si il ne fallait pas aller, et c'est ce à quoi votre projet et votre introduction invitent, aller au-delà juste d'une dénonciation de l'atteinte aux libertés fondamentales, la restriction de l'état de droit, l'état policier, etc. Et peut-être penser la sécurité comme une catégorie fondamentale du capitalisme qu'il faudrait interroger comme la marchandise, le travail, l'argent et le capital. Donc c'est ce à quoi votre ouvrage s'attaque. On parlera ici surtout dans la première partie des questions, des problématiques, des façons de peut-être de réenvisager le problème dont vous parlez dans votre introduction avec Paul Guilibert, même si là tu t'exprimes en ton nom propre. Et dans la deuxième partie, on s'intéressera particulièrement à celui qui semble plus intéressant pour cette critique de la sécurité que vous proposez, qui est Mark Nucleus, qui est un théoricien critique de la sécurité depuis un certain nombre d'années, qui a produit énormément de travaux très intéressants et qui résume un peu une partie au moins de sa conception dans le premier article de l'ouvrage. Et puis on parlera du coup moins des deux autres articles de l'ouvrage qui ont également des aspects intéressants. Le deuxième sur qui est un peu spécifique, donc on ne voulait pas l'aborder dans l'émission, qui est sur l'antiterrorisme anglo-saxon pensé à partir d'une analyse, disons, marxiste. Et la troisième partie, c'est le troisième chapitre, pardon, c'est un dialogue avec Claude Serfati, qui lui parle de la sécurité, mais plutôt dans une perspective mondiale, sur reliée à la question de la mondialisation, de l'impérialisme, de l'armée. Et ça, on l'abordera peut-être dans une autre émission qu'on ferait avec toi, sur la question, voilà, de l'impérialisme. Donc, est-ce que tu peux un petit peu présenter justement les limites que tu trouves aux critiques un peu d'extrême gauche des politiques sécuritaires, puis parler de ce que vous avez envisagé comme piste de réflexion, comme nouvelle problématique, etc.
Ouais. Oui, bah, tu as bien résumé la raison d'être de cet ouvrage. À la base, c'était effectivement de s'extraire un peu de cette temporalité de l'urgence que l'état d'urgence et toutes les mesures de contrôle qui vont avec imposées, et pour se situer à un niveau de réflexion un peu plus général, un peu plus abstrait sur la place de la sécurité dans la reproduction du capitalisme. En effet, donc on a à gauche, on a beaucoup parlé de l'état d'urgence dans le cadre d'une part de toutes les perquisitions qui ont été menées à l'encontre de populations racisées dans les banlieues, et aussi de la répression des mobilisations contre la COP21 novembre 2015. Et du coup, l'état d'urgence a été thématisé, disons qu'on a thématisé tous les dispositifs sécuritaires qui ont été mobilisés à ce moment-là ou qui pouvaient potentiellement être mobilisés dans le cadre d'une thématique très répressive. C'est-à-dire, on réprime soit certaines populations de manière préventive parce qu'on estime parce qu'elles sont dangereuses, ou on réprime certaines mobilisations sociales. Mais dans tous les cas, on était pris dans cette logique vraiment très, 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 très répressive. Or, nous, ce qui nous intéresse, c'est finalement c'est une temporalité, c'est de voir comment l'état d'urgence faisait. Comme l'a très bien rappelé Éric Fassin dans un article paru dans Le Monde, je crois, en novembre 2015, il faisait cavaliser donc des dispositifs déjà existants, il faisait qu'entériner donc des modalités de traitement de certaines populations normales, et finalement, il ne touchait pas globalement la majorité de la population qui, bon, pouvait vaquer à ses occupations. Et du coup, l'état d'urgence, c'était le constat qu'on posait, faisait davantage reproduisait la normalité capitaliste à travers enfin, la gestion sécuritaire normale à travers de nouvelles mesures, plutôt qu'il ne constituait une suspension de l'état des choses. Et c'est du coup de ce point de vue-là, pour s'extraire un peu donc de la temporalité politique de la réaction, de toutes les mobilisations qu'on a pu avoir, qu'on a cherché à proposer un peu un espace de réflexion plus large que constitue ce bouquin.
Oui, c'est donc ce qui est intéressant dans votre introduction, c'est justement que vous montrez bien que, contrairement à l'indignation, disons, des milieux d'extrême gauche, l'état d'urgence n'est pas quelque chose donc qui est exceptionnel et qui sort de nulle part et qui parce que finalement ce serait avaliser le mythe de l'état de droit qui serait merveilleux et qui serait en opposition totale avec donc l'état d'urgence, alors que les deux sont un peu quand même des continuations l'un de l'autre. C'est pour ça qu'on invoque l'état de droit pour justifier l'état d'urgence. Enfin, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce. Et puis après, vous montrez bien que c'est pas un dispositif qui s'applique uniformément à toute la population, mais que ce sont en vertu de la structuration raciste du capitalisme, et notamment du capitalisme français, c'est avant tout les populations racisées qui sont les principales victimes de ces dispositifs.
Tout à fait. Enfin, et c'est un peu une méca... Enfin, on voulait un peu s'extirper justement de cette temporalité, parce qu'on la voit reproduite constamment aussi dans le discours anti-répression qui revient dans les milieux militants, qu'on a vu par exemple à l'œuvre au moment de l'affaire Tarnac, où on peut concevoir, bien sûr, que pour des raisons stratégiques de défense des personnes inculpées, on mobilise justement tout le discours démocratique de la défense des droits. C'est totalement, moi, ça me paraît personnellement légitime de défendre les droits démocratiques face à des mesures répressives. Mais derrière ça, finalement, de l'extrême gauche jusqu'aux appélistes, jusqu'aux franges les plus libérales de la gauche, il y a toujours une espèce d'idée qu'il y a une normalité, démocratique qui se voit suspendue par une montée de l'autoritarisme, et qu'il s'agirait du coup de finalement de défendre le statu quo. Or, nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de ne pas cultiver cette espèce de nostalgie, d'un ordre démocratique qui aurait été suspendu par toutes les mesures antiterroristes qui s'enchaînent depuis 30 ans. Plutôt de voir comment on a une co-constitution à la fois donc d'un certain régime de liberté spécifique au capitalisme et qui prend une forme spécifique dans le capitalisme démocratique libéral, et les mesures sécuritaires, les mesures répressives, et de voir qu'on est justement pas dans cette opposition entre la liberté et la sécurité, mais que finalement que la sécurité tend plutôt à aménager des espaces, des régimes de liberté particuliers, à réguler, à agencer les droits démocratiques en fonction de certains contextes historiques et en fonction de certaines populations. Et du coup, de penser ensemble la sécurité et la démocratie libérale, et de voir que la sécurité, pour m'exprimer un peu comme le fait un sociologue qui s'appelle Didier Bigot, la sécurité, c'est bien davantage un ensemble de mesures illibérales qui sont propres aux régimes libéraux et qui permettent justement de les agencer, de les réagencer et de les maintenir, et de dépasser cette métaphore de la balance sécurité-liberté.
Oui, c'est un apport, je trouve, de votre livre, c'est justement de faire un petit peu comme la critique, par exemple, que Marx fait au concept de liberté, et d'en refaire une catégorie spécifique au capitalisme, et d'essayer de du coup d'en faire vraiment une théorie critique et pas simplement de l'invoquer comme enfin voilà d'invoquer la liberté contre la réalité de la société bourgeoise, mais plutôt de se dire, plutôt que d'invoquer la liberté contre les politiques sécuritaires, essayer de est-ce que finalement la sécurité elle fait pas et c'est pas voilà une catégorie fondamentale du capitalisme qui, comme la liberté, doit être, comme le travail, doit être questionné et pas simplement reprise à notre compte. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant que vous expliquez. Peut-être tu pourrais développer un petit peu
Oui,
justement cet
alors
aspect-là.
juste quand on parle de liberté, il s'agit bien sûr d'un régime de liberté situé historiquement qui repose sur certaines conditions de possibilité. Et quand on parle de liberté, c'est la liberté la liberté marchande. On est bien d'accord. Donc c'est le fait que dans la société bourgeoise, qui ne repose pas sur une domination personnelle directe, les gens sont libres d'être exploités en quelque sorte et qui doivent. Personne ne te force de vendre ta force de travail le matin, de te lever le matin, si ce n'est la logique même de la valorisation capitaliste qui fait que tu dois vendre ta force de travail pour pouvoir te reproduire. Et du coup, ce qui nous semblait problématique dans la manière dont la sécurité est souvent envisagée, c'est qu'elle est uniquement envisagée, disons, comme sous l'angle de stratégies spécifiques de classe. Mais ces stratégies spécifiques de classe, elles visent finalement à reproduire le type
De rapports
de
socio-capitalistes.
rapport socio-capitaliste, oui. Et du coup, ce qui nous semblait intéressant, c'est de penser ensemble la sécurité et la reproduction des conditions de la liberté marchande, c'est-à-dire à quel moment la liberté marchande, justement, à quel moment trop de liberté, justement, risque de nuire à l'équilibre du marché, de l'exploitation, etc. C'est déjà la question que se posait Foucault dans ses cours sur la gouvernementalité, c'est toujours cette l'idée de moduler en quelque sorte le régime de la liberté marchande sur la base d'un calcul de risque permanent. Et c'est ça ce que c'est avant tout ça la sécurité, c'est-à-dire c'est de maintenir un certain équilibre social dans lequel l'échange marchand peut se faire en quelque sorte.
Et donc c'est pour ça que finalement la sécurité c'est principalement donc c'est la sécurité de l'ordre capitaliste,
Oui.
c'est la sécurité des contrats, c'est la sécurité des personnes en tant qu'ils sont porteurs des rapports socio-capitalistes et pas de manière générale, puisque s'ils
Ouais.
sont pas porteurs justement de ces rapports socio-capitalistes, par exemple les prolétaires racisés, bon à la limite là pour le coup ils sont beaucoup moins intéressants à. Là, pour le coup, ils deviennent des sujets, non pas des sujets de la sécurité, mais plutôt des sujets, voilà, ennemis de la sécurité. Et du coup, sécurité, évidemment, des propriétés,
Ouais.
sécurité. On voit vraiment que ça, c'est quelque chose d'intéressant dans votre ouvrage. C'est, enfin, le but, c'est de sortir un peu du fétichisme de la sécurité, de sortir de faire de la sécurité quelque chose de général, d'intemporel, une espèce de valeur éternelle de l'humanité.
Oui.
Qu'il faudrait contrebalancer avec la liberté et faire un petit peu comme les débats stériles des libéraux entre la
Sur
liberté,
l'économie,
l'égalité, voilà.
oui. Oui, tout à fait. Effectivement, les discours mainstream sur la sécurité que l'on trouve par exemple dans le courant réaliste en relations internationales tendent à présenter la sécurité, voilà, comme une valeur intemporelle qui a trait à la nécessité pour une société de persévérer dans son être. Alors, c'est clair que toute société se reproduit d'une manière particulière et reproduit bien sûr les rapports de domination et d'exploitation qui vont avec. Mais elle le fait aussi d'une manière particulière avec des rapports sociaux spécifiques. Et il nous semble que la manière dont le capitalisme se préserve des dangers qui le guettent, des dangers qu'il produit lui-même est spécifique. Et cette modalité spécifique de se reproduire face aux dangers, face aux menaces qu'il génère constamment, c'est la sécurité. Et il nous semble, alors on n'a pas tellement développé dans cet ouvrage cette intuition-là, mais moi il me semble que la manière dont d'autres sociétés se préservaient des dangers qui les guettaient était un peu différente, ou était même très différente de la manière dont le capitalisme se préserve de ce qui risque de le nuire finalement. Ça transparaît un peu dans notre introduction, mais c'est des intuitions qui, à mon sens, mériterait d'être développé. Du coup, effectivement, la sécurité, ce n'est pas une valeur naturelle, transhistorique, mais c'est un rapport au danger qui est historiquement ancré.
Oui, et c'est pour ça que dans le mot de fétichisme, parce qu'on c'est important quand même de le réexpliquer, donc le fétichisme, ça vient du portugais fetichao, qui veut dire artificiel. Et en fait, le fétichisme, c'est le fait de considérer quelque chose qui est en fait une production sociale historiquement située,
Oui.
comme justement la sécurité qui est sortie en fait de. Qui est propre à la société bourgeoise, de le fait de le considérer comme quelque chose de naturel.
Bien sûr, oui. Tout à fait. Souvent, enfin, les discours sécuritaires vont avec tout un imaginaire biologique. Vous voyez, oui, ça serait dans la nature innée de l'homme. Ça, c'est un rapport à la survie. Et du coup, on en revient là. Et du coup, c'est pour ça souvent qu'on a. Trouve souvent dans les discours sécuritaires des considérations sociales darwinistes assez dégueulasses, quoi.
Oui, et effectivement, alors que, et ça c'est quelque chose que vous développez pas mal dans votre introduction, c'est le fait que, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental, c'est que la sécurité, donc comme rapport social, et aussi un petit peu comme ensemble de discours idéologiques, modèle les sujets, crée des nouvelles subjectivités, et donc du coup, et ça c'est un petit peu particulier, ne doit pas être envisagé uniquement comme une répression, ressentie comme une répression par les individus, mais aussi génère, modèle les subjectivités de manière à ce que finalement la demande de sécurité finisse par émaner d'eux. Donc finalement, on va être martelé de attention aux colis suspects, etc., etc. Donc, et c'est pas uniquement qu'un ensemble de discours, ça c'est important de le dire, c'est aussi tout un tas de dispositifs
Bien
matériels qu'on
sûr.
retrouve dans les aéroports, les écoles et tout ça. Et donc tout ça va produire des nouvelles subjectivités. Est-ce que tu pourrais du coup parler de cet aspect-là, toi?
Oui, alors tout d'abord, tu l'as dit, il faut garder à l'esprit que la sécurité, c'est un rapport social. C'est-à-dire, c'est pas juste un ensemble d'institutions ou de techniques. Et il y a souvent, il me semble, un gros problème dans les critiques de gauche de la sécurité et les pratiques politiques qu'elle oriente. On le voit par exemple, je me souviens, il y a une dizaine d'années, dans les débats sur la loi LOPSI 2, ou même ou dans les critiques sur l'installation des dispositifs de vidéoprotection, enfin, vidéosurveillance, maintenant on dit vidéoprotection, mais c'est que voilà, il y a une tendance à identifier la sécurité avec ces objets technologiques. Or, ces objets technologiques sont que des vecteurs technologiques qui médiatisent un certain rapport social, c'est-à-dire une manière dont les hommes se rapportent à eux ensemble.
Par
Et
méfiance, du
oui,
coup.
voilà, par méfiance, sur la base du risque. Et évidemment que les pratiques de résistance à l'ordre sécuritaire ont des objets spécifiques et s'incarnent dans des objets spécifiques, les caméras, etc. Mais il faut prendre en compte que, comme le travail,
Oui, il faut.
on peut pas s'extraire de ce de, on peut pas s'extraire totalement de ce rapport. On est toujours pris au sein de ce rapport, on lutte au sein de celui-ci, en vue de son abolition définitive, quoi. Et du coup, ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que la sécurité, c'est pas juste un ensemble de personnes ou d'institutions ou de dispositifs technologiques qui nous font face, mais c'est un ensemble, enfin c'est un ensemble de rapports sociaux qui médiatisés par ces dispositifs et dans lesquels on est pris et qu'on reproduit à toutes les échelles de la société, en fait, et qui produit effectivement des type de subjectivité particulière, quoi, c'est-à-dire des subjectivités qui se conçoivent sur le mode du calcul de risque permanent, en fait, quoi. Et cette idée que ça, on l'a pas tellement développé dans notre introduction, mais c'est quelque chose qui me semble important, c'est cette idée que le risque, c'est finalement le contenu social propre de la sécurité, c'est-à-dire que on se rapporte un ensemble de facteurs qui nous paraissent menaçants et qui sont envisagés sous une même catégorie, qui est le risque. Et du coup, tu as tout un ensemble de processus sociaux très très différents et finalement qui sont envisagés uniquement sous l'angle de leur dangerosité pour la reproduction du capitalisme à différents niveaux.
Politiques,
Voilà,
risques
risque. Et ce qui est
sociaux.
intéressant, c'est qu'il y a une unité de mesure générale qui est le risque pour tout un ensemble de phénomènes sociaux très différents, et ça se manifeste aujourd'hui par un peu les changements de paradigme qui ont eu lieu donc dans la sphère sécuritaire depuis 40, depuis 30 ans. Par exemple, quand tu prends l'OTAN, dans les années 90, il y a toutes sortes de débats sur l'objet propre de l'OTAN. Si c'est plus les États, si c'est plus la menace soviétique, c'est quoi? C'est tout un ensemble de menaces diffuses et qui sont envisagées à l'aune d'une même unité de mesure qui est le risque. À partir des années 80, plus largement, il y a tout un ensemble de discussions dans le monde de la sécurité sur l'objet référent propre de la société, de la sécurité, et tout un ensemble de nouveaux objets de la sécurité qui émergent. Et derrière ça, moi, je l'interprète, disons, comme la prise de conscience chez les professionnels de la sécurité que finalement, l'objet propre de la sécurité, c'est une espèce de menace universelle. C'est l'ensemble des processus et des phénomènes sociaux qui, à différentes échelles, peuvent nuire à la bonne marche du capital. Qu'il s'agisse de la criminalité, des risques climatiques, du terrorisme, des risques politiques, des mobilisations sociales, tout ça envisagé à l'aune d'une même unité de mesure qui est le risque. Et à partir des années 80, on observe dans les imaginaires sécuritaires dominants, on observe une dédifférenciation entre les menaces et l'établissement d'un continuum sécuritaire. Et ça, c'est possible parce qu'il y a juste parce que d'une certaine manière, l'objet, le contenu social propre de la sécurité, c'est le risque en quelque sorte. Et c'est ça ce qui est intéressant avec la sécurité, et cette logique du risque diffuse. C'est pas seulement la rationalité qui oriente les pratiques sécuritaires, c'est aussi en grande partie la rationalité qui oriente une bonne partie des comportements de la vie quotidienne, aussi de la manière dont les subjectivités se construisent. Je précise cette. Ces considérations sur le risque, pour l'instant, c'est des réflexions qui sont en cours. Elles ne sont pas tellement développées dans l'introduction, mais l'intro
Non,
que
mais
je viens de décrire.
c'est une logique très intéressante parce que finalement, on passe disons, d'un paradigme uniquement en termes de répression enfin, finalement, l'ordre capitaliste arrive à peu près à se démerder. Voilà, il y a des fluctuations, il y a des illégalismes, mais finalement il les tolère plus ou moins. Et il y a uniquement des grandes menaces qui sont très spécifiques. Et là, on passe à une logique de la sécurité et du risque. En fait, il s'agit de prévenir, donc c'est une logique de la prévention, tout ce qui peut gripper ou entraver un petit peu l'ordre capitaliste et tout ce qui peut effectivement gripper ou entraver l'ordre capitaliste, et ça a parfaitement marche parce qu'il faut qu'il marche parfaitement, il faut pas qu'il y ait de petits grains de sable, d'accro. Eh bien, tout ça, c'est considéré, voilà, comme des risques environnementaux, des risques. Et ce qui permet, du coup, évidemment, d'amalgamer tout. Et ça, c'est ce qu'on retrouve au niveau, évidemment, des discours politiciens et des discours idéologiques. Mais peut-être que c'est pas uniquement, disons, un calcul idéologique des classes dominantes. Mais c'est peut-être, disons, un nouveau stade, entre guillemets, du capitalisme qui ne tolère même plus, disons, tout ce qui peut nuire un tant soit peu à sa marche parfaite, quoi.
Alors moi, il me semble ce qui est nouveau dans les 40 dernières années, c'est qu'il y a effectivement une prise de conscience idéologique donc chez les élites, dans les élites politiques, dans les élites sécuritaires, du paradigme du risque. Donc il est théorisé, il y a beaucoup, beaucoup qui a été produit sur la notion de risque, etc. Beaucoup qui a été produit beaucoup de débats sur quel est l'objet référent de la sécurité, si ce n'est plus la défense de la souveraineté étatique, donc la sécurité au sens noble, le militaire, etc. Si maintenant tout relève de la sécurité, bon, ces débats-là ont lieu à partir des années 80. Moi, il me semble que finalement, le risque, cette idée que le risque oriente les pratiques de sécurité, elle est intrinsèque au capitalisme, en fait. Et ce qui est nouveau, c'est une prise de conscience du paradigme du risque qui innerve les pratiques de sécurité, mais que finalement, c'est ce que, on va en parler tout à l'heure, Mark Newcluse, dans ses travaux, cherche à montrer, c'est que. Il y a toujours une continuité, un continuum entre la guerre et la police. Et en rapport avec la dynamique du capitalisme. Et d'une certaine manière, il y a toujours eu un continuum entre la sécurité sociale et la sécurité militaire. et policière, et donc il n'y a jamais eu une belle séparation entre la main gauche et la main droite de l'État dont nous parle Bourdieu, mais que finalement il y a toujours eu cette logique du risque a toujours été là. Et il y a un texte très intéressant donc de Nuclius et de son collègue Rigaco sur l'émergence du paradigme du risque avec avec l'émergence de la logique capitaliste et de la logique de l'assurance au XVIe siècle. Et moi, il me semble enfin, véritablement qu'à partir du moment où on considère que la sécurité est une catégorie fondamentale et fondatrice du capitalisme, son contenu social propre, c'est le risque en fait. Et c'est le risque qui sous-tend l'ensemble des pratiques de pouvoir qui visent à préserver le capitalisme des dangers qui le guettent. C'est ce qui est juste nouveau, c'est la prise de conscience dans les classes dominantes que c'est bien que le risque est au centre de ces pratiques en fait, quoi.
Oui, et donc ce qui fait que le mot de sécurité, finalement, c'est le fait qu'il faut, donc l'impératif de sécuriser les rapports capitalistes dans le moindre détail, ne pas risquer qu'ils ne se reproduisent pas automatiquement de manière globale, harmonieuse et parfaite.
Voilà.
Et ce qui fait que, du point de vue, et c'est pour ça que finalement l'idéologie de la sécurité, elle est révélatrice d'une logique capitaliste profonde, c'est quand on amalgame la sécurité routière, la sécurité sociale, la sécurité antiterroriste, etc. En fait, on peut se dire que on peut dénoncer ce discours en disant vous amalgamez ces trucs, mais en réalité, ça témoigne du fait que du point de vue de la logique structurelle du capitalisme, tout ça, ce sont uniquement, c'est perçu uniquement comme des grains de sable qui risquent de faire grincer la méga machine capitaliste,
Oui,
quoi.
à des échelles très différentes, et bien sûr. Hein, mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est de voir. Bah, on peut prendre la question des catastrophes naturelles, parce que la question des catastrophes naturelles, il y a d'un côté la nécessité de. Après, ça dépend des pays aussi. Bon, il y a la nécessité de, d'une certaine manière, protéger la population en tant que force de travail. Face à ce qui risque de lui nuire. Et du coup, c'est quand, par exemple, la police ou l'armée intervient dans le cadre de catastrophes naturelles, ce n'est pas uniquement pour faire du contrôle social, c'est aussi parce qu'il y a une nécessité objective de préserver cette force de travail face à ce qui risque de lui nuire. Mais il y a aussi, bien sûr, une nécessité de répressive, de contrôle social. Par exemple, Serfati, dans son entretien, le mentionne, il me semble. C'est que par exemple, il y a une au Japon, il y a une forte tradition antinucléaire. Et du coup, il y a aussi cette idée qu'il faut, de manière préventive, limiter les contestations qui ont émergé ou auraient pu émerger suite à la catastrophe de Fukushima, en fait. Et du coup, on a différentes modalités de gestion, mais qui, au fond, il y a une logique commune, il me semble, derrière tout ça. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui, très souvent, on établisse un continuum allant du terrorisme aux catastrophes naturelles en passant par la délinquance, c'est pas juste parce que certaines franges du monde sécuritaire ont réussi à imposer leur vision de la sécurité globale qui floute justement les distinctions entre domaines de la sécurité qui pouvaient exister avant, mais c'est qu'il y a quand même quelque chose de véritablement commun à toutes ces pratiques-là. Et pour moi, c'est le risque et le risque est lié justement à ce que tu viens de dire, la nécessité de reproduire à des niveaux très différents de la totalité sociale, la bonne marge de l'accumulation capitaliste.
Oui, c'est
Ouais.
donc c'est une sorte de, enfin, c'est un peu le gouvernement par le risque,
Ouais.
et c'est peut-être pour ça que je trouve pas toujours, disons, le fait de lier l'analyse marxienne à une analyse foucauldienne toujours pertinente, mais là je trouve que vous le faites de manière particulièrement pertinente, puisque justement on voit bien comment est-ce que justement la sécurité va s'incarner dans les rapports sociaux jusqu'au plus profond, c'est-à-dire que dans le train on va regarder si son voisin il fait pas des trucs un peu suspects, on va regarder dans la RATP, et c'est des comportements qu'on intériorise et que en fait on n'échappe jamais totalement à l'intériorisation de justement de ce calcul de risque permanent. Ça produit vraiment des subjectivités sécuritaires qui voilà, et ce qui fait que par exemple, pour prendre un exemple pour illustrer que là c'est pas uniquement un nous contre eux, les objets techniques sécuritaires, les discours sécuritaires et les institutions sécuritaires. Il suffit de voir parfois la réaction des gens quand il y a des manifestations qui sortent des clous et tout ça. Il y a une espèce d'anxiété liée au fait que les rapports socio-capitalistes ne se reproduisent pas comme prévu. Et du coup, il y a une espèce de panique, quoi, en fait, qui a vraiment été intériorisée par les gens et tout ça. Et qui, du coup, ça produit évidemment des subjectivités qui se distancient beaucoup plus de ce qu'elles ne connaissent pas. Et évidemment, ça ne favorise pas le lien, la solidarité, la réflexion collective. Enfin, il y a vraiment... ça, c'est quelque chose que vous dites, c'est... Vous reliez ça donc notamment à la phase néolibérale du capitalisme, et vous dites bien que le néolibéralisme, la phase néolibérale du capitalisme a aussi réussi ça, c'est-à-dire à atomiser les gens, non pas, bon, même si c'est une tendance qui est inhérente au capitalisme, non pas seulement à travers des logiques économiques, individualisation du contrat de travail et tout ça, mais aussi par justement la production de ces rapports très distanciés de facteurs de risque, qui fait que par exemple au niveau des mouvements sociaux, pour s'organiser socialement, c'est de plus en plus compliqué, quoi.
Ouais, tout à fait. Après juste revenir sur Foucault et le rapport de Foucault et Marx, je vais pas en rentrer dans les longues considérations théoriques, mais juste chez Foucault, en gros, la gouvernementalité, le gouvernement par le risque, c'est quand même un projet politique, un projet constructiviste en quelque sorte, qui suppose que voilà, certaines rationalités dominantes s'imposent, rationalités de marché qui vont avec. Et du coup, il s'intéresse vraiment au rapport entre les pratiques de pouvoir et la rationalité de marché qui va avec. Nous, on dit qu'il y a quand même une nécessité objective pour le capital, justement, de se préserver les processus qui le caractérisent, et préserver le régime de liberté d'échange marchand qui le caractérise. Et du coup, il y a une co-constitution entre ces rationalités du risque et une pression objective du capital de se préserver, quoi, en quelque sorte.
C'est une forme, et ça lui permet, disons, d'arriver sociale, ouais. Ça lui permet, disons, d'arriver de manière la plus adéquate possible, oui, à ce qu'il souhaiterait être, c'est-à-dire une gigantesque mécanique qui roule sans aucun grincement. Et c'est, et finalement, du coup, les discours, les idéologies qui ont été produites au cours de la phase néolibérale du capitalisme ne sont finalement que la réalisation d'un projet qui est structurel au capitalisme.
Oui, et le problème chez Foucault, c'est qu'il cerne bien le rapport entre marché, risque et sécurité, mais qu'il le conçoit davantage uniquement sur le plan, voilà, des formes de rationalité et de la rationalité libérale puis néolibérale qui s'impose, mais qu'il ne le conçoit pas du point de vue des structures mêmes du capitalisme qui nécessitent de sécuriser leur propre mouvement, en quelque sorte, quoi.
C'est ça, il n'en fait pas une analyse en termes de rapports sociaux, voilà, de structures,
ouais,
et tout ça, oui.
Ouais.
Bien sûr.
Le néolibéralisme va en rajouter une couche dans la manière dont les gens se conçoivent comme des agents de la sécurité, quoi, et la manière dont la sécurité innerve et agence les rapports sociaux. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'État, même s'il est le pôle central de la sécurité à travers lequel les pratiques de sécurité, à partir duquel les pratiques de sécurité s'organisent, en même temps il y a une diffusion de plein de nouveaux dispositifs de sécurité, soit je sais pas des applications de Crime Watch que tu as sur ton téléphone, ou ce genre de choses, et qui en dernière instance se rapportent toujours à l'autorité de l'État, mais qui en fonctionnement beaucoup plus horizontal aussi, quoi. Et du coup on a vraiment un quadrillage par les dispositifs de la sécurité de l'ensemble de la société, par tout un ensemble de micro-techniques. Et ça, c'est bien sûr c'est un mouvement que le néolibéralisme intensifie extrêmement, quoi. Et disons que de la même manière que le néolibéralisme pousse les gens à se concevoir comme auto-entrepreneurs d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils diffusent la logique de l'entrepreneuriat, l'ensemble des rapports sociaux, la manière dont les gens se construisent, c'est-à-dire qu'ils se construisent comme des preneurs de risques, et ben disons, la sécurité, c'est un peu l'envers de ça. C'est qu'il faut... La sécurité, c'est ce qui permet de limiter le mauvais risque, en quelque sorte, quoi. Donc il y a le le bon risque de l'individu auto-entrepreneur qui prend des
Qui est à
risques.
l'intérieur des catégories capitalistes.
Voilà,
Voilà, on peut prendre des risques à l'intérieur des catégories, mais pas à
exactement.
l'extérieur.
Exact. Oui, voilà, c'est parfaitement résumé. Et du coup, la sécurité, c'est ce qui participe à déterminer le bon risque et le mauvais risque, en quelque sorte, quoi.
Et pour revenir sur la question du néolibéralisme, on pourrait avoir, et d'ailleurs Claude Serfati vous fait un peu, vous reproche un petit peu ça dans son interview, on pourrait avoir l'impression que finalement, avec ce concept très général de sécurité, vous mettez de côté l'insécurisation sociale croissante d'une partie de la population et tout ça. Et en fait, moi, ce que je me disais, c'était que en réalité, vous dites bien dès le début que la sécurité, c'est un dispositif différencié qui touche les différentes populations de manière différente. Et on pourrait dire finalement résoudre un peu cette espèce de paradoxe ou d'opposition en disant que finalement, l'insécurisation sociale croissante des classes populaires, eh bien, se fait pour justement assurer l'ordre parfait et la marche parfaite du capital, c'est-à-dire précisément assurer sa sécurité absolue. Et donc si par exemple, on ghettoise, on enferme les quartiers populaires dans une logique ultra répressive, c'est pour être sûr eh bien, cette insécurisation sociale qui résulte de la logique du capital, qui se restructure à partir des années 70, ne puisse pas gripper le moins du monde la logique parfaite de l'ordre capitaliste. Ce qu'on voit dans la surprotection des quartiers d'affaires, des galeries commerçantes et tout ça. Parce que il faut, à la limite, donc le capitalisme, évidemment, crée des relègues des populations croissantes, retire un peu de sécurité sociale, entre guillemets, à des parties croissantes de la population, mais il le fait de telle sorte à ce que, bon, déjà pour, disons, conformément à sa logique d'adaptation à la crise et de dépassement de cette crise, enfin, disons, de restructuration, et il le fait de manière à assurer sa sécurité complète, voilà, sa reproduction complète.
Oui, je pense que le fait que enfin, des pans entiers de la population soient rendus superflus du point de vue de la logique de la valorisation capitaliste et en plus soient de plus en plus précarisés avec le démantèlement ou de moins la restructuration du welfare state, ça va avec l'intensification du contrôle policier dans ces zones-là, ça c'est clair. Après, je pense qu'il faut, par rapport à ce que disait Serfati, je pense qu'il faut effectivement. De nouveau se méfie. C'est très souvent le discours donc, par exemple, de gens comme Loïc Vacan qui nous disent qu'on a une augmentation on a une intensification du contrôle pénal et des politiques pénales et de l'enfermement qui va de pair avec le démantèlement néolibéral du welfare state. Alors, c'est vrai. C'est vrai, sauf que le welfare state, c'est pas l'opposé de la sécurité, en quelque sorte. Le welfare state, c'était ça c'est ma thèse du moins, enfin, mais c'est la thèse qui est partagée aussi par certains critiques marxistes du welfare state. Le welfare state et l'état-providence, c'est d'une certaine manière une des modalités de la sécurité dans la mesure où il a permis d'intégrer et de neutraliser de larges fractions du prolétariat. Et qu'il a été cet instrument d'adhésion de larges pans du prolétariat à l'État-nation et aux mécanismes de sa domination. Et dans la mesure où le welfare state, c'est à un moment donné ce qui assurait qu'il prenait en charge les besoins de reproduction de la force de travail que le capital ne pouvait pas prendre directement en charge. Le welfare state est un instrument est une des modalités de la sécurité, ce qu'il faut pas dire qu'à l'âge actuel on peut pas défendre il faut pas défendre la sécurité sociale, c'est pas ce que je dis, mais c'est de pas avoir une illusion, enfin de pas cultiver des illusions dans la fonction qu'occupe par exemple une institution comme la sécurité sociale dans la gestion des populations. C'est pas pour rien que ça s'appelle sécurité sociale, enfin qu'il y a le mot sécurité dedans, quoi. C'est pas.
Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, là, ça rappelle donc les origines de la sécurité sociale qu'on a baptisée justement sous le nom de compromis fordiste.
Voilà, ouais.
Et finalement, on pourrait dire
Pour
que,
revenir à Bismarck aussi, ouais,
c'est
pour
ça.
ouais.
Et on peut dire finalement que les lois, voilà, dès les lois de Bismarck de 1800, des années 1880, finalement, la sécurité sociale et ce qu'on peut appeler les lois sociales sont des lois en fait de sécurisation sociale
Oui.
de l'ordre capitaliste.
Oui.
C'est-à-dire, on s'assure qu'il n'y aura pas de révolution sociale par voilà, des lois, par une intégration voilà, d'une large fraction du prolétariat. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire, si on pousse un peu cette logique-là, qu'aujourd'hui, justement, le règne de la sécurité, et je pense qu'il est ressenti comme tel par certaines fractions racistes des classes moyennes ou du haut du prolétariat, c'est que finalement, la sécurité, disons au sens des politiques sécuritaires, peut être ressentie comme une espèce de nouvelle sécurité sociale.
Oui.
C'est-à-dire, effectivement, elles ont ces classes moyennes déclassées et l'ancienne aristocratie ouvrière blanche. Effectivement, ils ont perdu ou ils perdent progressivement l'ancienne sécurité sociale et ils gagnent entre guillemets une nouvelle sécurité sociale qui fait que bah, ils vont être épargnés par les politiques sécuritaires, qui vont être protégés justement des effets de déstructuration sociale par la crise du capitalisme.
Oui.
Et donc, enfin, je trouve que ce qui est intéressant justement dans cette thèse et dans la thèse que vous défendez, c'est vous cassez un peu les fausses oppositions, état de droit, état d'urgence, politique sécuritaire, politique sociale, sécurité sociale, sécurité répressive, et vous montrez qu'il y a un continuum. Et que simplement, peut-être que, et c'est malheureux à dire, mais peut-être que les politiques sécuritaires répressives d'aujourd'hui font finalement la nouvelle forme de sécurité sociale adaptée au capitalisme de crise. Comme en 45, les enjeux étaient autres, il fallait s'assurer du concours du prolétariat pour la reconstruction de la France ou pour éviter la propagation du communisme entre guillemets du capitalisme d'État léniniste, mais qui quand même faisait peur quand même à la bourgeoisie, elle aurait été remplacée par une autre bourgeoisie. Comme les enjeux là sont autres, on produit une autre forme de sécurité sociale. Et donc du coup, ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est qu'on sort vraiment complètement de la nostalgie des fausses oppositions qu'on retrouve à la gauche. Et de la nostalgie de bah, toujours qui est omniprésente dans le champ politique de la gauche, dans l'imaginaire politique de la gauche aujourd'hui, l'imaginaire de la sécurité sociale, Ambroise Croizat, Bernard Friot, et l'imaginaire voilà du bon compromis fordiste, de la sécurité sociale. Alors qu'en fait, si on se resituait à l'époque, en fait, peut-être que des possibilités beaucoup plus révolutionnaires étaient ouvertes à l'époque, et que justement, c'est cette sécurité sociale et tout ça, qui, ok, ont amélioré la vie des gens, il ne s'agit pas de le nier, mais qui ont aussi fermé des possibles et qui ont sécurisé l'ordre capitaliste à un moment où il aurait pu être un peu menacé.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Si d'un côté, effectivement, il faut penser la continuité entre la sécurité au sens dur, enfin militaire, policier, et la sécurité sociale, il faut aussi penser effectivement comment les rapports entre les deux ont évolué à l'âge néolibéral. Et c'est un peu la thèse qu'on a cherché à esquisser dans l'article de Vacarme, c'est de montrer que bah, là, à partir du moment où, compte tenu de la crise du capitalisme et de ses restructurations, l'État fordiste et la prise en charge fordiste, enfin, welfare keynésianiste de la population était objectivement plus possible, plus tenable, les modalités d'intégration se sont déplacées et les politiques sécuritaires et la sécurité, donc au sens, oui, enfin, dans son acception la plus répressive, est devenue un nouveau. Enfin, a pris une place prépondérante dans l'intégration de vastes pans de la population. où il s'agit d'une part de différencier entre les citoyens, bon, les citoyens bourgeois et ceux qui sont relégués à une citoyenneté de seconde zone. Ah, bien sûr, il y a des stratifications très importantes, mais disons qu'il s'agit de moduler un peu la subjectivité citoyenne entre bon, celui qui jouit de ses pleins droits, qui peut vendre sa force de travail tranquillement, être exploité tranquillement et vaquer à ses occupations, et ceux qui non seulement sont exclus de la liberté marchande parce qu'ils sont superflus du point de vue de la valorisation et qui en plus s'en prennent plein la gueule par le contrôle policier, etc. Il s'agit aussi et du coup et il s'agit bien sûr de et aussi de d'intégrer large pan de la population contre une figure de l'ennemi en fait qui est identique avec largement avec les franges racisées du prolétariat en fait et du coup le statu quo le statu quo aussi dur qu'il soit apparaît toujours comme préférable face à l'horizon de la barbarie que la sécurité leur fait miroiter et du coup
Les zones de
Où les zones
non-droit.
zone de non-droit, Daesh, et d'une certaine manière, tout horizon de rupture avec le capitalisme, et via la sécurité, via ces imaginaires, se voit identifié avec le chaos ou la barbarie islamiste, en quelque sorte. Et du coup, une large partie donc, de la population est ainsi gagné bah, au projet hégémonique des classes dominantes et par-delà à l'adhésion au capitalisme et aux formes de vie aussi pourries qui nous présentent, quoi.
Évidemment, la sécurité, ce sont des dispositifs qui sont différenciés et qui, comme justement, elles ne touchent pas toute la population, elles sont susceptibles de rencontrer une adhésion.
Oui.
Et c'est pour ça que, bah, notamment, on voit bien par exemple, dans l'électorat de Marine Le Pen, qui se limite pas donc à la bourgeoisie, mais aussi largement aux classes moyennes et à certaines fractions du prolétariat
Ouais.
non racisé.
Ouais.
Eh bien, il y a une adhésion parce que effectivement, ce n'est pas dirigé contre eux, finalement, ça a quand même pas mal d'avantages parce que du coup, indirectement, ça favorise énormément, enfin, le fait de ne pas subir ces politiques sécuritaires, ça favorise en termes d'emploi, de logement, etc., etc. Et d'autre part, il y a dans Puisque tu parles effectivement que effectivement la révolution sociale est systématiquement voilà amalgamée avec le terrorisme, les zones de non-droit et tout ça dans
Ouais.
cette espèce d'imaginaire sécuritaire, c'est assez intéressant parce que par exemple pour donner une illustration du phénomène, le journal du CNRS donc de je sais plus quand, il y a quelques mois, expliquait voilà travailler sur un nouveau concept de radicalisation et c'était vachement intéressant parce qu'en fait dans radicalisation il y avait tout, les islamistes, les maoïstes des années 70, les appellistes, cette espèce de gloubi-boulga où finalement la révolution sociale devient non pas comme ça pouvait être encore dans la politique, dans une partie, disons, de la politique bourgeoise au 19e, au 20e siècle, qui était déjà perçue quand même sous la forme d'une menace de la sécurité, mais qui encore avait une dimension un peu idéologique, de projet de société. C'était un projet dangereux, mesquin, mais au moins on lui reconnaissait une dimension politique.
Oui.
Et là, effectivement, on ne reconnaît plus du tout, même à la Révolution sociale, de dimension politique. On le prend uniquement sous un angle pathologique, voilà, du risque. Donc on dépolitise complètement les contestations sociales.
Tout à fait. C'est vrai qu'on a une mutation des figures de l'ennemi du 19e à maintenant. C'est-à-dire que au 19e, avec l'émergence du prolétariat, et en France, d'un prolétariat révolutionnaire jusqu'à la Commune, du moins, il y a voilà, cette idée des classes dangereuses. Et bien sûr, il y a toutes sortes de fantasmes complètement délirants qui sont associés à cette idée des classes dangereuses. Mais disons que ça correspond quand même à un potentiel de subversion réelle de ces, du prolétariat et à une dangerosité réelle que représente le prolétariat pour l'ordre capitaliste. Aujourd'hui, effectivement, tu as une figure de l'adversaire universel ou de la menace universelle où tu as un peu tout et n'importe quoi et les fantasmes qu'on a par exemple sur les banlieues qui sont souvent complètement délirants et correspondent pas à une ou alors sont largement déconnecté de toute
La réalité.
toute dangerosité, dangerosité, enfin de
Menace pour l'ordre social.
menace pour l'ordre social réel, même si bien sûr c'est précisément c'est quand même aussi dans ces populations qu'on a vu, enfin dans ces zones qu'on a vu aussi des épisodes insurrectionnels les plus intéressants dans les dernières années. Il suffit de penser à 2005, mais quand même les fantasmes sécuritaires, c'est pas seul en présence sur les banlieues, c'est pas seulement par rapport à la menace que représenterait la menace politique révolutionnaire que représenterait des épisodes comme celui de 2005. C'est un ensemble de fantasmes qui c'est souvent un ensemble de fantasmes largement déconnectés de toute réalité, quoi, en fait. Et du coup, et qui se noient justement dans un espèce de continuum qui va de la ZAD aux menaces islamistes. Disons qu'il y a une autonomisation des imaginaires, de la figure des imaginaires, des figures de l'ennemi par rapport au potentiel de subversion réelle au cours du 19e, 20e et 21e siècle, alors qu'au 19e, il y a encore résolument une adéquation entre la dangerosité réelle du prolétariat et les imaginaires de la menace existant, en fait, quoi.
Oui.
Et ça, c'est aussi lié au fait que de plus en plus les bureaucraties sécuritaires, les professionnels de la sécurité se sont de plus en plus autonomisés en ayant des représentations et des intérêts qui leur sont propres et qui sont en compétition constamment pour définir, ouais, qui c'est la vraie menace pour obtenir des fonds ou obtenir une reconnaissance de leur savoir-faire. Et du coup, on doit constamment produire des nouvelles figures de l'ennemi, des nouveaux savoirs qui souvent sont quand même très loin de toute
En fait,
subvention réelle. Ouais.
on voit depuis, peut-être depuis 68, parce que ça me fait penser aussi furieusement à Raymond Marcellin et au RG qui étaient obnubilés par la menace d'une révolution sociale en France. Bon, pour ça, entendez le contraire en surveillant quelques centaines de gauchistes, bon, ce qui est quand même vraiment un petit peu hallucinant. Et il y a effectivement une déconnexion totale effectivement des discours sécuritaires qui est liée à l'autonomisation des institutions sécuritaires elles-mêmes qui, évidemment, ont besoin de produire ces menaces pour justifier leur existence. Mais même au niveau de l'appareil d'État, il suffit de penser effectivement à l'affaire Tarnac, qui a pris une proportion gigantesque pour pas grand-chose. Et ça, ce serait peut-être une critique qu'on pourrait parfois faire un peu aux appellistes, et finalement de retomber dans le même fantasme de l'insurrection qui vient que justement les politiciens sécuritaires, puisque on est malheureusement pas dans une situation
Ah oui,
pré-révolutionnaire en France.
bien sûr.
Finalement, il faudrait pas non plus finalement alimenter les discours sécuritaires et leurs fantasmes justement en avalisant leur mythologie, quoi.
Ouais, et même à gauche, d'une certaine manière, on continue à penser la sécurité par rapport à l'existence d'un sujet révolutionnaire potentiel. On assiste quand même au 19e et au 20e siècle à un mouvement général d'intégration et de neutralisation du prolétariat qui culmine avec le nazisme. Et globalement, c'est cette nostalgie finalement d'un potentiel subversif assigné au prolétariat subsiste dans la manière dont la gauche pense la sécurité. On le voit notamment aussi, par exemple, moi j'aime beaucoup les travaux de Mathieu Rigouste, mais quand même il y a toujours cette idée qu'il s'agit de réprimer de manière préventive toute potentialité de contestation. Mais d'une certaine manière, le capitalisme, via le nationalisme, via son mouvement même, a très bien neutralisé le prolétariat comme danger révolutionnaire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que cette explosion sécuritaire à laquelle on assiste à l'âge néolibéral, elle intervient quand même après la vague révolutionnaire contestatrice des années 60 et du début des années 70, c'est-à-dire quand les mouvements subversifs ont déjà été matés ou se sont déjà épuisés, en fait. Et certes, il y a régulièrement des épisodes de contestation comme celui de 2005, mais il y a pas de il y a pas de danger révolutionnaire comme il a pu en exister dans la première moitié du XXe siècle ou au XIXe siècle. Et du coup, il faut se demander pourquoi justement, pourquoi la sécurité persiste et penser justement la sécurité par-delà la question de l'antagonisme de classe, en fait, quoi.
Oui,
Ouais.
par-delà, effectivement, le sujet révolutionnaire
Ouais.
qui, effectivement, ça ne veut pas dire que on ne sera pas en présence d'une situation révolutionnaire un jour, mais là, on n'est pas en situation, on n'est pas dans une situation révolutionnaire ou pré-révolutionnaire, loin de là,
Malheureusement, ouais.
malheureusement. Et du coup, peut-être qu'à un moment, on pourra retrouver, disons, un type de discours où là, effectivement, on pourra dire qu'il y a en fait une conflictualité réelle et que le discours sur la sécurité est vraiment une arme du capital pour réprimer une contestation qui monte. Mais là, ce n'est pas le cas. Et donc, du coup, il faut faire un peu la part de la réalité et tout ça. Oui, et donc, justement, pour approfondir toutes ces questions, enfin, du moins une partie d'entre elles, même si là on s'est beaucoup contenté d'intuitions, de questions, de premières pistes de réflexion. Dans une deuxième partie, on va creuser certaines pistes de réflexion qui ont été proposées par Mark Nucleus, donc qui est un théoricien critique de la sécurité qui réfléchit à ces questions depuis un très grand nombre d'années et qui donc nous fournira des éléments supplémentaires pour approfondir la critique de la sécurité qui donc a été esquissée bon, à la fois dans cette émission et puis dans l'introduction à l'ouvrage Critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, qui paraît donc en septembre 2017 aux éditions Hétérotopia. Et donc là, on fait une pause musicale.
Je viens de pop en Percocet, yeah, je suis drogué, yeah. Ouais, les gens ont des a priori, tout en torse au principe de l'échange, à quelque chose d'insensé. Bitches love salsa, fuck ton drapeau français, et je donne un fuck, yeah. Je donne un fuck, je donne un fuck, ne traîne toujours pas dans le club, je donne un fuck de tes broodies, fuck ton mène à bonne, fuck cette merde goofy, je suis terne avec la Kunst, pleure les larmes dans le bando toute la journée, tu viens à la guerre sociale dans la praxis, c'est ta journée, écrasé, déphasé, vie mutilée, fuck ton mansplaining, yeah, on te laisse vie mutilée. Nous sommes devenus étrangers à notre être générique. Maman me dit fais un stage, ça te sera bénéfique. J'ai vendu ma force de travail toute la semaine. Yeah, 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 j'ai plus.